CQFR sur la chaîne Basket Session Reverse. Shai, on rentre direct dans le vif du sujet avec un très gros match qui s'est joué cette nuit du côté de Dallas. Victoire d'OKC 100-96 sur le parquet des Mavericks. Le Thunder qui revient à 2-2, qui reprend d'une certaine manière l'avantage du terrain. Et Shai, honnêtement, j'ai l'impression qu'on peut parler de hold-up. Je ne sais pas si tu es tout à fait d'accord, mais quand on regarde ce match, quand même à tout moment l'impression que c'est Dallas qui va gagner. OKC remonte, revient complètement au score dans les 7 dernières minutes, fait éteindre la salle. Et ouais, j'ai l'impression que les Mavs ont quand même grillé une cartouche. Je vais t'ouvrir la parole là-dessus, je vais te donner la parole là-dessus. Pourquoi j'ai l'impression que les Mavs ont grillé une cartouche? Ils ont mené de 14 points en début de match. Ils ont mené de 14 points en deuxième mi-temps. Ils avaient encore 7 points d'avance à 7 minutes de la fin. Ils ont limité le Thunder à 38% au tir et 26% à 3 points. Et malgré ça, ils ont perdu.
C'est un match qu'ils ne doivent jamais perdre. Hein. Alors, je suis très content de l'issue parce que j'adore OKC, que cette victoire, c'est un témoignage encore une fois de cette maturité dont on parlait, parce qu'ils n'ont jamais paniqué. C'est simple, j'ai allumé la télé, j'ai raté le tout début, je vois 22-8, je me dis bon, ça, effectivement c'est le plus 14 que tu évoquais, et Dallas était clairement au-dessus, dans l'impact physique, dans la défense, il y a tout qui calait vraiment bien jusqu'à la mi-temps, j'ai trouvé les Mavs vraiment bien, et même plus tard, même quand OKC s'est rapproché, il n'y a aucun moment dans le match où tu as l'impression que Dallas va le perdre, même si Doncic, Irving... sont pas dans un grand soir offensivement, c'est un euphémisme, hein, ils n'étaient pas vraiment dedans. Tout le reste, la défense était tellement bonne, franchement c'est un des meilleurs matchs défensifs des Mavs cette saison, tout simplement. Tu sais à quel point j'ai été sceptique sur leur capacité à être bon en défense dans un match à fort enjeu. Je les ai trouvés excellents de ce point de vue-là. Mais par contre, ils ont été tellement déficients de l'autre côté quand ça comptait vraiment, que face à une équipe comme le Thunder, où bah, ils ont absolument rien lâché, ils ont jamais paniqué comme je disais. Shai Gilgeous-Alexander, c'est un patron, c'est le roi du flegme. Il est jamais sorti de son match. Il est toujours resté. Il a inspiré les autres en fait. Quand t'as ton franchise player qui est comme ça, derrière tous les autres ils suivent et t'as pas l'impression que c'est une équipe avec des mecs de 20, 21, 22, 23 ans. Et je les ai trouvés. C'est encore plus admirable de réussir ce hold-up. Le terme me paraît tout à fait justifié parce que je crois qu'ils reprennent, ils prennent l'avantage vers 3 minutes de la fin sur un tir à 3 points de Chet Holmgren. On va reparler d'Holmgren, je pense, parce qu'il m'a fait grosse baffe encore, Holmgren incroyable, lui aussi de maturité et de sang-froid. Mais oui, t'as raison, le terme n'est pas surfait. Dallas devait gagner ce match, avait mis les ingrédients pour gagner ce match en défense, mais a pas fini le boulot, tout simplement.
La maturité du Thunder est impressionnante, et t'as raison, tu mets le doigt. Hein. C'est chez Gilgeous-Alexander, il donne l'exemple. Il panique pas. Alors, il les a maintenus à bout de bras. Hein. C'est le seul qui met des paniers. Enfin, des fois, ça donne l'impression que c'est le seul qui mettait des paniers durant les trois premiers quart-temps. Il a aussi mis 10 points dans le quatrième quart-temps. Il finit à 34 points, 8 rebonds, 5 passes, 2 interceptions, 2 contres. Sur cette série, il donne vraiment le ton des deux côtés du terrain. Plein de moments où il est sur Kyrie Irving. Mais tu as raison, la maturité, c'est l'équipe la plus jeune de la ligue. Ils sont pas censés être là.
Eh oui.
Ils finissent le match avec 2 rookies dans le 5. Kesson Wallace, Chet Holmgren. Ouais. Il y a 2 rookies dans leurs 5 majeurs de fin de match. Guidi joue quasiment plus sur cette série. Unplayable.
Le premier carton, enfin, ils ont pris le bouillon quand il était sur le terrain. Il est sorti. Alors, il met un 3 points dans le corner en début, au moment où je me suis connecté au match. Mais après, il n'est plus jamais revenu. Quoi.
Ouais, mais il peut plus. Dans cette série, il ne va pas jouer. Il ne jouera quasiment pas. D'ailleurs, en deuxième mi-temps, il n'est même pas dans le 5. C'est Wiggins qui prend sa place. C'est Joe ou Wiggins. Je ne sais plus. Un des deux. Je les confonds, les deux.
De toute façon, ça a tourné sur le banc. Ils se sont répartis les minutes. ils se sont répartis les minutes. Tout le banc s'est réparti les minutes de Guidi, de toute façon.
Ouais. Et c'est marrant. Gordon et Ward ne jouent pas. Tu vois, au final, je pensais qu'Eward aurait un impact dans cette équipe en playoff et tout. Au final, pas du tout. C'est vraiment leur jeune, quoi. C'est Jalen Williams qui est sophomore. Bon, Shea est un peu plus âgé. Dort un peu plus âgé. Mais Holmgren, rookie, Kesson Wallace. Tu regardes son box score, tu vois que 6 points, 1 bloc. Tu vois, 2 sur 2 au tir. Bon, tu captes pas l'impact qu'il a pu avoir. Mais il est excellent pourtant, en défense sur Kyrie, excellent en défense sur Doncic. Il met 2 paniers à 3 points. Et les deux, c'est au même endroit à 45 droite. Et c'est 2 paniers importants à 3 points. Enfin, non, vraiment. La maturité du Thunder, ils sont prêts, quoi, les gars. C'est bluffant. C'est bluffant. Et chez Gilgeous-Alexander, il fait un quatrième carton. C'est lui qui c'est autour de lui que s'articule le comeback. Il met des paniers. Il en met un. Je pense que le panier a déjà fait le tour de la toile. Celui où il marque par-dessus la planche.
Ouais, non, il est incroyable. Il est incroyable. Mais je suis content pour cette équipe. Peu importe ce qui se passe, elle a montré que l'âge qui était l'inquiétude de certains, le manque d'expérience, ça se ressent pas du tout, tu vois. Alors bon, chez Gilgeous Alexander a fait quelques matchs de playoff avant. Là, dans ce groupe-là, il y a quand même beaucoup de types qui ont peu d'expérience et ça se voit pas du tout. Ils font pas les erreurs des équipes jeunes habituellement. Donc c'est pour ça que j'ai confiance en cette équipe-là, que ce soit maintenant ou pour la suite. Parlons de Chet Holmgren parce que j'ai plus ses stats en tête, je les avais notées
Dix-huit
évidemment.
points, neuf rebonds, quatre contre.
Voilà, donc bon, c'est
Six
bien,
sur neuf
mais
aussi.
c'est un rookie, les contres qu'il met, c'est un peu pour répondre à l'espèce de domination que Dallas a faite de ce côté-là du terrain. Dallas, je crois, bat son record de contres en playoff, il y a 13 contres en
Treize,
première mi-temps,
treize
t'as
contre.
Gafford qui lâche une tonne de contres, Derek Lively, enfin tu te dis, ah, ok, dans la raquette c'est mort, Holmgren va souffrir. Un peu plus tôt dans la série, il y a des matchs où il a un peu souffert aussi. Et là, je veux dire, un match où ton équipe elle est sur la brèche, elle peut être menée 3-1. Et non seulement il met des paniers importants, donc ce tir à 3 points là, je veux dire, en termes de sang-froid, c'est quand même fort. Et il a mis l'énergie, encore ce sang-froid sur la ligne après dans les derniers instants, parce que Dallas peut encore être dans le match. Hein, sur la ligne, il y a Luka qui rate un des deux lancers pour égaliser à 10 secondes de la fin. Holmgren, lui, derrière, il met les deux, il n'y a aucun souci.
Ben, c'est bien que tu parles des lancers parce que pour moi, c'est la stat la plus
Eh oui.
folle de ce match et c'est là où ça rejoint. Alors, c'est un hold-up, mais comme je disais aussi, les Mavs ont grillé une cartouche. 12 sur 23 au lancer franc pour les Mavs, 23 sur 24 pour le Thunder. C'est la différence du match en fait. Tu vois, le 12 sur 23, il est terrible et tu l'as dit, Doncic, il a l'occasion d'égaliser, mais il en rate un. Il en rate un et en fait, il y a trop de petits détails. J'ai l'impression que les Mavs, pareil, tu rebondis sur ce que tu dis, tu vois, sur le fait que OKC joue pas comme des jeunes. Ou des mecs qui n'ont pas d'expérience, les Mavs, à un moment, ils sont relâchés dans le troisième quart-temps. Tu vois, il y a des écrans en retard manqués, il y a plein de rebonds offensifs. OKC, qui est une mauvaise équipe au rebond, d'un coup se met à prendre des rebonds offensifs. Il y a des fautes bêtes, des pertes de balles évitables, des lancers ratés du coup. En fait, ils ont maintenu le Thunder en vie là où, en fait, ils auraient dû tuer le match, tu vois. Et c'est terrible. Et pour Holmgren, mais je partage tout à fait ce que tu dis, j'ai l'impression que c'est lui qui gêne le plus. Doncic et Kyrie Irving. C'est-à-dire que, voilà, on a beaucoup parlé de Lou Dort, oui, Lou Dort, bien sûr, Lou Dort, c'est un match-up pas facile pour. Enfin, c'est un match-up pas facile. C'est un mec qui peut gêner Doncic physiquement, mais au final, en fait, et ça montre d'ailleurs les qualités athlétiques de Doncic, en fait, même Lou Dort, il n'est pas aussi fort que Doncic physiquement. Doncic, il le bouge, quoi. Doncic, il bouge Lou Dort, c'est ce qui est fou quand on voit la masse qu'est Lou Dort. Mais au final, Doncic, il peut toujours plus ou moins avoir ses tirs. Par contre, et surtout, comment dire, il y a des pick and roll, donc tu n'as pas vraiment ton vis-à-vis, en fait, ça switch. Mais il y a un truc qui gêne Doncic, c'est que dès qu'il drive vers le cercle, en fait, il ne peut pas finir. Il peut pas finir. Il y a toujours Holmgren en aide, il y a toujours Holmgren qui casse en plus cette. Les Mavs mettent quand même plein de points dans la raquette, mais qui casse en partie la menace de lob que représentent Gafford et Derek Lively. Faudrait que je regarde le pourcentage de Derek Lively et de Gafford sur cette série par rapport à leur pourcentage depuis le début de la saison. Je vais faire un article sur Holmgren, donc voilà, petit spoiler, petit teaser, je vais regarder ça, mais je suis persuadé qu'il fait baisser leur pourcentage. Kyrie, il est limité à 9 points parce qu'il y a plein de moments où il peut pas vraiment driver vers le cercle. Alors il y a de la bonne défense sur l'homme de Dort, de Kesson Wallace, à la fois sur Kyrie, sur Doncic, même de Shai Gilgeous-Alexander, mais Holmgren est vraiment tour de contrôle en défense, en attaque, il étire les lignes, il est propre. C'est impressionnant pour un rookie.
Là aussi, c'est dans la lignée de la saison qu'il a faite, où il a semblé vraiment prêt. Bon, la course au rookie de l'année, forcément, c'était compliqué, Wembanyama au niveau statistique et tout, mais je suis vraiment ravi qu'il soit tombé dans cette équipe-là où il n'a pas la pression de devoir marquer beaucoup. Enfin, et quand ils ont besoin de lui, il est là. Et je suis hyper excité par ce joueur pour la suite. Pour maintenant, déjà, parce qu'il est prêt. Hein. On est en demi-finale de conférence, il y a 2-2 et il arrive à faire ce genre de choses-là. Et tu as raison pour l'aspect dissuasif qu'il a sur les rencontres et sur une attaque qui est quand même, enfin, c'est une attaque folle. Enfin, la force de frappe avec Kyrie et Luka, bah, lui plus le reste de l'équipe, hein, qui a quand même fait le taf, bah, ça va être en compte. Kyrie 9 points et Luka 18 points, mais à 6 sur 20. Sur un match comme ça, tu t'attends à ce que Luka il tourne à 30 points quoi qu'il arrive sur une série comme ça. Et non, sa simple présence couplée au reste des efforts collectifs, ça fait que OKC arrive à prendre un match à l'extérieur et se retrouve à 2-2, récupère en fait finalement l'avantage du terrain et que le suspense est intact.
On a deux séries complètement folles à l'Ouest, deux séries tellement physiques. C'est vraiment des matchs très. Ce match-là est très intense, très physique. Et il y aura un Game 5 qui s'annonce. Enfin, deux Game 5, du coup, aussi celui entre Minnesota et Denver. Mais le Game 5 s'annonce complètement fou. La bonne nouvelle, je dirais, la bonne nouvelle pour Dallas, ou semi-bonne nouvelle, c'est que j'ai l'impression que physiquement, Doncic a l'air un peu mieux.
Bah en tout cas,
Physiquement.
alors oui,
Un petit peu.
offensivement parfois je l'ai trouvé un peu emprunté, mais j'ai pas eu l'impression que c'était de la fatigue ou c'était genre un mauvais soir, tu vois. Et en défense, impressionnant physiquement comment il a tenu, comment il a fait des efforts. Lui et Kyrie ont vraiment vraiment essayé, ça n'a pas toujours marché, hein, mais c'était mon inquiétude principale et du coup elle, ça n'a pas du tout pénalisé les Mavs, ils sont de ce point de vue-là très très impressionnant. Après, je m'attendais pas par contre à ce qu'il y ait un match où il y en ait un à 9 points et l'autre à 6 sur 20. Enfin, c'est ça le problème. Mais t'as raison, ils ont pas à être inquiets particulièrement, parce que logiquement, ça va rentrer dans l'ordre à un moment. Enfin, j'imagine pour eux en tout cas.
En tout cas, faut pas que ça tarde parce que là,
Non, il y a.
Game 5 à Oklahoma City, c'est le vainqueur du Game 5 d'une série à 2-2, le vainqueur passe dans 82% des cas. Ils ont
Ouais.
donné la stat là, pendant le match la nuit dernière. Allez, on peut enchaîner avec l'autre match entre Boston et Cleveland. Là, pour le coup, il n'y aura pas 2-2, il n'y a pas 2-2 et un Game 5 à jouer. Enfin, il y a un Game 5 à jouer, mais il n'y a pas 2-2, il y a 3-1 pour Boston. Boston a fait le break en gagnant 109-102. Les Celtics ont quand même bataillé contre une équipe des Cavs qui jouait sans Donovan Mitchell. Donc déjà pour Cleveland, oui, ça se complique quand même. Il manque Jarrett Allen maintenant, il manque aussi Donovan Mitchell. C'est pas sûr que Donovan Mitchell joue le prochain match. Les Cavs se sont bien battus, mais quand même victoire des Celtics 109-102.
Ouais, c'est fou du coup cette campagne des Celtics là, après la saison incroyable qu'ils ont faite. Quand tu regardes enfin, toutes les stars adverses sont tombées comme des mouches sur leur parcours. Ils ont un parcours qui semble ultra facile, mais du coup ça leur rajoute une pression et je trouve qu'ils en jouent pas très bien du coup. Ils en viennent à jouer pas très très
Trop
bien.
lâche en fait.
Ils se relâchent, ils savent qu'ils ont une marge sur les équipes. Et là, Cleveland, même sans Mitchell, même sans Allen, arrive un peu à. Alors je dirais pas qu'ils ont été inquiétés, on va pas aller jusque-là. Hein. Ils ont quand même été à peu près en contrôle.
Oui,
Tatum
tout
fait
du
un bon
long, ouais.
match. Voilà, mais ils ont. Tu peux t'attendre à des blowouts, tu vois. On s'attendait quasiment à des blowouts à chaque match. Même au premier tour, tu te disais, bon, bah, ils vont logiquement cartonner tellement ils sont au-dessus et tellement en face, il y a des absents. Mais ils se foulent pas. Il n'y a pas Porzingis non plus. Donc on peut dire que ça peut peut-être jouer un peu là-dessus. Mais c'est fou à quel point la finale de conférence leur tend les bras, quoi. Tu vois, t'as
Même la
l'impression que.
finale NBA,
Oui, voilà, bah
entre
oui,
les
parce que
Pacers ou
c'est
les
ça.
Knicks sur une jambe.
Bah, c'est ça. Mais du coup, j'ai l'impression qu'ils vivent pas bien ce truc-là, tu vois. De se dire, ils savent que les gens vont dire, bon, bah ouais, évidemment. Hein, et que du coup, je retrouve pas la même fluidité qu'en saison régulière. Ce qui est normal, on est en playoff. Hein, mais du coup, ils sont un petit peu décevants sur la production. Mais bon, ouais, ils mènent 3, hein, ils ont été dominateurs au rebond, 48-32, ils ont été plus agressifs, ils ont eu plus de coups de sifflet aussi, hein, 24 lancés contre 7 pour Cleveland. Hein.
Ouais.
Bon, mais voilà, c'est juste, je dis déception, c'est pas vrai, c'est juste que forcément on s'attend un peu à plus vu la saison régulière qu'ils ont faite.
Moi, je sais pas si c'est déception parce que, mais parce que bon, des blowouts, en fait, je trouve ça humain quelque part qu'ils se relâchent, mais ça me fait peur pour eux. Ils vont arriver plus frais que n'importe quelle équipe de. Je suis désolé, je me projette. Je ne le fais pas pour toutes les équipes. La plupart du temps, j'essaye de rester mesuré, mais je vais être très honnête. Je ne vois vraiment pas comment Boston peut perdre plus de deux matchs sur une série à l'Est. Ça me semble impossible. Et je ne suis même pas sûr, même en finale de conférence, je ne suis pas sûr qu'ils en perdent plus qu'un. Peut-être qu'ils en perdront un. Pas sûr qu'ils en perdent plus qu'un. Les Celtics, bon, ils vont peut-être, ça leur permet d'avoir beaucoup de temps, de récupérer éventuellement Porzingis. Ils seront frais, sans doute plus frais que l'équipe de l'Ouest qui sera en finale. Par contre, et c'est un truc qu'on a déjà pointé du doigt dans des late sessions, dans des CQFR, dans plein de, pas que nous d'ailleurs, c'est de savoir mais comment cette équipe elle va réagir quand d'un coup elle va se retrouver face à de l'adversité en fait. Parce que là, il va falloir se mouiller la nuque là pour jouer une des quatre équipes de l'Ouest là. Ça, il y a tellement, tu sais même, on dit ouais les Knicks c'est physique et tout, mais les Knicks c'est pas physique comparé au Thunder, aux Timberwolves ou aux Mavericks ou même les Nuggets tu vois. C'est les séries physiques avec les. C'est à l'ouest, quoi. La différence physique athlétique, elle est folle. Je sais, je le dis à chaque fois,
Ouais.
mais Ça me marque. Encore hier, tu regardes le Dallas OKC, tu as l'impression que ce n'est pas le même basket. Je suis désolé, que Indiana-New York.
C'est vrai.
C'est pas du tout la même chose. Je veux bien que les Indiana-New York, c'est sympa, c'est serré. Oui, il y a un peu de cœur, il y a un peu de bataille, mais ça n'a rien à voir. Tu as l'impression que c'est deux divisions différentes. Tu vois, il y a genre une poule A, une poule B. Et les Celtics, ils se sont retrouvés dans la poule B, mais Et du coup, alors voilà, peut-être que Boston, la fraîcheur, jouera à leur avantage en finale. On verra. Oui, je me projette. Pour moi, clairement, les Celtics, ils seront en finale. Mais il y a aussi ce piège, le contre-coup, c'est de se dire que l'équipe qui va arriver en finale à l'Ouest, elle aura été testée. Elle aura clairement été testée parce que pour aller en finale à l'Ouest, il faut sortir les tripes. Alors que Boston, on le voit, il y a des matchs. Celui-là, ils le prennent 109-102. Franchement, ils sont pas à fond, tu vois.
Mais je vois de quoi En fait, c'est marrant parce que le phénomène dont tu parles, j'extrapole vers le foot, tu sais, mais ça fait des années que le PSG se loupe en Ligue des Champions, tu vois, contre des adversaires parfois moindres, après avoir caracolé en tête de son championnat, après avoir parfois ultra dominé en phase de poule en Ligue des Champions. Et il y a toujours un espèce de gap dès qu'ils arrivent contre une équipe qui, elle, a l'habitude de faire que des matchs à la mort pendant le reste du temps. Et tu vois clairement la différence d'intensité. Et ça vaut aussi pour le basket, évidemment, parfois. Et je partage cette inquiétude-là, c'est le risque pour Boston qui est favori au niveau de la fraîcheur, au niveau de l'effectif, même si Porzingis s'est blessé, ils ont quand même les forces vives sont quand même présentes. Et oui, je partage cette inquiétude. C'est aussi pour ça, moi, dans ma réflexion de base, dans mes pronos, pour moi, c'est une équipe de l'Ouest qui gagnait. Tu vois, j'ai pas mis Boston champion parce que je crains aussi ça, je crains le moment où ils vont être testés, où Tatum va devoir vraiment élever le niveau, Brown aussi, enfin. Toutes ces choses-là me font peur, et encore plus maintenant que là on voit ce qui se passe à l'Ouest. Alors les équipes de l'Ouest perdent des plumes aussi, hein. Je veux dire, c'est ultra fatigant.
Ah oui, ça va arriver fatigué. Ouais.
Voilà, le Denver-Minnesota, c'est une bataille. Là, cette série-là, elle est belle aussi, et les gens finissent sur les rotules. Et il y a encore une finale de conférence à jouer. Mais c'est ce qui est un peu. Alors peut-être que les Celtics ont raison, hein, de pas essayer à tout prix de cartonner à chaque fois, de passer des sweeps. Peut-être que inconsciemment, ils se mettent en difficulté sur certains matchs ou là en perdant un des matchs contre Cleveland parce que ça va leur servir après. Mais c'est inévitable. Ils sont face à ce danger-là. Je pense aussi qu'ils vont aller en finale. Hein. Je vois pas comment. Mais j'aimerais bien que les Knicks arrivent à faire quelque chose ou que les Pacers, sur leur enthousiasme, arrivent à gêner Boston. Mais j'y crois pas trop, honnêtement. Donc tout le révélateur, ce sera après. Et là, on peut difficilement savoir ce qui va se passer, quoi.
Yes. Ils sont presque dans une position d'attente, en fait, c'est trop bizarre, mais bon, on verra. À eux de le gérer, c'est vraiment, ça demande des ressources mentales, on verra comment ils gèrent tout ça. Je te propose, avant qu'on parle un peu de la draft, je te propose qu'on parle un peu des matchs de ce soir.
Ouais.
Justement, il y a les Knicks qui jouent contre les Pacers, c'est le match 5, ce sera au Madison Square Garden, et on a aussi un match 5 avec une autre série qui est à 2-2. En fait, de toute façon, à part Boston, toutes les séries sont à 2 partout avec des matchs 5 décisifs. C'est celle entre Minnesota et Denver. J'ai regardé un peu, du coup, j'ai re-regardé le Denver-Minnesota. Je me demande si les Timberwolves, il n'y a pas un moment, ils n'ont pas eu un peu trop de confiance. Ouais. Ce que je veux dire par là, c'est que en première mi-temps, je n'avais pas fait gaffe, mais il y a quand même un moment où ils jouent sans Kat et sans Edwards. Il n'y a aucun des deux sur le terrain. Et je crois qu'en fait, ils ne peuvent pas se permettre de faire ça. Leur attaque, elle est, et c'est là où ils prennent le bouillon. C'est que s'il n'y a ni Kat ni Edwards, tu n'as pas un scoreur. Et du coup, ils se font allumer. Et je me demande s'il n'y aura pas un ajustement à surveiller pour ce soir. C'est de voir des moments où voilà, Chris Finch ou Nori, le coach qui est sur le banc à sa place.
Mika Nori
va laisser des 4. Moi, par exemple, j'aurais mis vraiment Towns tout seul sur les passages où il y a Jokic tout seul. Tu sais, les fameuses minutes où c'est Jokic avec les remplaçants. J'aurais mis 4 quand il n'y a pas Gordon. Pour que Kat, il agresse Jokic, potentiellement, il provoque des fautes. Je pense que Kat, il se débrouille mieux quand c'est Jokic sur lui que quand c'est Gordon. Gordon, il est à la fois suffisamment mobile et à la fois suffisamment puissant. Alors que Jokic, il est puissant, mais il n'est pas aussi mobile que Kat. Voilà, et après, dès que Jokic sort et que c'est Gordon tout seul, là, j'aurais remis Edwards. On verra si ça se passe, mais ça m'intriguerait de voir ce que ça donne, en fait.
Bah là, t'as raison. Pour que les Wolves retrouvent un peu cette confiance, ils l'ont peut-être eu avec cette confiance, mais c'est dur de les blâmer. Tu te rends compte, tu mènes 2-0, tu mets une claque gigantesque, quasi historique. Hein. Franchement, le Game 2, quand tu y repenses, il a aucun sens ce qu'ils ont mis à Denver chez eux, le champion. Enfin, il y a plein. Je réécoutais dans le podcast de Bill Simmons, alors il faisait un peu un mea culpa parce qu'il disait que qu'il avait annoncé un sweep après les deux premiers matchs. Il s'est dit, ça y est, les Nuggets sont à la cave, Jamal Murray est blessé. Bon, alors il y a eu le cœur de champion qui a parlé, mais je comprends que les Wolves se soient dit qu'ils n'étaient pas si loin que ça d'être arrivés et qu'ils se soient relâchés. Pour les périodes sans Kat et sans Anthony Edwards, il y a eu des moments dans la saison et même un peu pendant ces playoffs où il y a eu un Azri, un McDaniels qui a réussi à faire un peu plus que ça, et là on l'a pas vu pour le coup. Donc ça passe aussi peut-être par la re-responsabilisation, si je peux me permettre ce terme, de ces gars-là. Parce que c'est pas pour accabler Kat, mais il a eu un match très difficile le dernier. Tu sais, il s'est remis dans le mode que j'aime pas de Kat, c'est-à-dire où tu as l'impression que bah, il se dit, bon, Anthony Edwards fait son match, mais il peut pas faire plus. Donc maintenant, c'est à moi de sauver la patrie. Je vais rappeler qu'on est co-franchise player un peu, tu vois. Il se met un peu dans le. Il est plus en soutien, il est sur un pied d'égalité un peu et il pense qu'il peut y arriver, tu vois. Alors je comprends, c'est un joueur ultra talentueux, mais du coup, il remonte dans la hiérarchie en termes d'options de scoring et j'aime pas quand il est comme ça parce qu'il prend des tirs beaucoup plus compliqués que d'habitude et bah, parfois ça donne ça. Alors on l'a vu dans ses playoffs qu'il était capable d'être merveilleusement bon en attaque notamment. Il est capable de retrouver cette efficacité, je pense. Honnêtement, il n'y a pas de raison que ça ne le fasse pas. Mais tout va être une question d'équilibre. Denver fera peut-être pas. Ils ont fait un match parfait le dernier. Offensivement, tu peux pas faire mieux que ce qu'ils ont fait. Les pourcentages sont dingues contre la meilleure défense de la ligue, tout ça. Mais il faut que Minnesota retrouve cet équilibre. Il n'y a pas besoin qu'Anthony Edwards marque 44 points, je pense. Il n'y a pas besoin que. Il faut que tous les autres soient impliqués et qu'on retrouve du Naz Reid, qu'on retrouve McDaniels un peu plus. Voilà.
Oui, parce que j'allais dire, ouais, McDaniels, il est très maladroit. Nickel Alexander Walker est très maladroit. Gobert, il est discret. Faut que ces mecs-là, ils mettent leurs points. C'était un peu aussi ce qui s'est passé sur les deux premiers matchs. C'est que ça tournait aussi un peu autour. Les mecs mettaient leurs tirs. Là, quand ils ne mettent pas un tir. En fait, de toute façon, Minnesota, c'est une équipe qui a des vraies lacunes offensives. On l'a souligné même quand ils menaient 2-0, de toute façon. Ils gagneront une série défensive, ils gagneront pas une série offensive. Dès qu'il faut mettre 110 points ou plus, c'est compliqué pour Minnesota. Donc ça va être. De toute façon, ce match 5 va être intéressant. J'ai l'impression qu'Anthony Edwards, lui, il n'a pas peur de ce genre de moment.
Non, c'est clair.
Donc ça s'annonce assez excitant. On peut finir avec la draft avec des nouvelles de Bronny James qui devrait, a priori, quand même maintenir son nom à la draft. J'avoue que je suis très perplexe sur tout ça. Je
Bah,
sais vraiment pas quoi en
surtout avec
penser.
les infos qu'on a eues, surtout avec le. Bon,
Exactement.
là, le truc, c'est qu'on savait qu'il ne retournerait pas à USC, on savait qu'il allait tester un peu, prendre la température avec des équipes. Ce qui est fou, c'est qu'hier, t'as Woj qui annonce, ah bah c'est bon, Bronny James va rester, il a eu l'aval médical, parce que c'était important aussi quand même avec ce qui lui est arrivé, pour jouer en 5-5, il va faire les workouts, le draft combine et tout. Et je sais pas, une heure après, boum, il fait le draft combine et t'apprends que lui qui a annoncé à 1,93 m à peu près, hein, parce que c'est sur le, voilà, si on fait la conversion, il était à 6'4 depuis, je sais pas, un an quasiment. Sur tous les sites spécialisés, tous les médias l'annoncent 6'4. Et là, les mesures sont assez accablantes. Il ferait 1,86 m, 87 selon le.
Il a 6-1, quoi, en fait.
Voilà,
7 cm de moins,
6-1,
quoi.
c'est beaucoup.
Ouais.
7 cm de moins, c'est beaucoup. Alors, ça n'empêche pas du tout de faire carrière. Donovan Mitchell, il est dans cette. Mais c'est juste que ça. T'as l'impression que ça fait un peu plus encore forcé. Ah, bah, LeBron impose son fils. Ils ont un peu mitonné sur la taille et tout ça. Et du coup, bah, on peut se poser des questions. Sa saison rookie, freshman a été ultra compliquée. C'est pas que de sa faute. Hein. USC a été cata tout court. Mais c'est du coup ça pose question. Est-ce qu'il va l'imposer aux Lakers? Est-ce qu'il va vraiment est-ce qu'ils ont quoi? Ils ont j'en parlais parce que bah du coup vous pouvez aller regarder le podcast d'hier qu'on a fait avec Maxime sur la loterie et
Yes.
la draft. On a parlé de Bronny James à un moment. Est-ce que les Lakers avec leur 17e ou leur 55e est-ce qu'ils vont utiliser un pick pour lui? Si c'est le 17e, c'est un peu chaud.
Ah mais le premier tour, c'est
Voilà, bah ça paraît
scandaleux.
fou. Voilà, mais justement, on va voir où est-ce qu'ils auront peur que quelqu'un veuille s'attacher les services de LeBron dans le même temps. C'est fou que ça va être une intrigue pour un joueur qui, pour l'instant, et c'est pas, je veux dire, c'est pas lui faire un jeu, bah, des moyens et vaut pas un premier tour de draft, quoi.
C'est même pas un joueur NBA.
Bah.
C'est pas un joueur NBA. Mais moi, je suis pas sûr qu'il va se présenter à la draft. Honnêtement, je sais pas quelle est la date limite. Je sais que là, pour l'instant, tu vois, Shams, Woj, après, tu peux avoir plein de raisons d'annoncer que Bronny va rester, mais j'aimerais savoir quelle est la date limite, en fait. Quelle est la date limite pour.
Oh, c'est, je pense que ça doit être 15 jours avant la draft. Il a
Parce
encore
que
du temps, il va passer les entretiens.
s'il a pas de promesse. Voilà, c'est ça, c'est les entretiens. Voir est-ce qu'il aura une promesse de draft. Après, oui, le fait qu'il est son père, est-ce que ça peut motiver une équipe? Mais là, prendre un joueur comme ça au premier tour, la taille, ça compte dans le sens où c'est pas un joueur dominant en attaque, tu vois.
Ouais.
Donc, en fait, d'un coup, tu sais, tu peux avoir le coup de te dire « Ah, bah, je vais drafter ce combo guard de 6-4 qui peut défendre sur plusieurs positions et qu'on pourra peut-être développer en tant que talent offensif petit à petit. » Et là, d'un coup, ce n'est plus un joueur de 6-4, c'est un potentiel joueur de 6-1, okay, c'est qui fait 6-1, donc 1m86. Donc, OK, c'est un bon défenseur, mais son manque de taille va être exploité forcément par les équipes adverses. Enfin, je ne sais pas, ça change le projet quand même.
Bah, je suis d'accord.
Et si c'était un joueur très fort offensivement, on se dirait, bon, bah, de toute façon, c'est un scoreur. Allez, c'est un scoreur de petite taille. On en fera peut-être un sixième homme dans le pire des cas, tu vois, un sixième homme qui sort, qui met des points. Ça me semble compliqué.
Le problème, c'est la saison, c'est ce qu'il y a eu ces derniers mois, parce que quand il était au lycée, il était annoncé dans les 30 meilleurs lycéens, on va dire.
Mais
voilà,
lycée,
mais c'est ça.
Rien
mais,
dire.
Mais tu peux jouer sur le mystère un peu, tu vois. Là, le problème, c'est qu'il y a eu. Bah, c'est pas de sa faute, hein, mais son problème cardiaque qui visiblement est réglé, donc ça, c'est très bien. Et il y a eu ces échantillons de matchs avec USC qui ont été franchement pas top, quoi. Enfin,
il a 5 points de moyenne à la fac, quoi.
Voilà. Mais bon, du coup, il aurait le plus le profil d'un mec qui doit revenir après pour continuer de progresser, mais il va tenter dès maintenant parce que ça sent pas bon, quoi. Donc. Je pense qu'il est capable d'avoir. C'est très possible qu'une équipe lui fasse une promesse en pensant d'abord business. Hein, c'est très possible. Et on ne dit pas que c'est pas. Je ne sais pas si à terme ce sera pas un joueur NBA. J'en sais rien en fait. Je sais un joueur qui est explosif, qui a de la détente, un peu
d'envergure.
Il est jeune. Mais je suis d'accord. Pour l'instant, c'est pas un joueur NBA.
Aujourd'hui, quoi.
Voilà, ça c'est une certitude. Mais une équipe est tout à fait capable de le prendre juste pour le business, quoi. C'est ça le truc. Je pense que ça va se produire. Moi, je pense pas qu'il va se retirer. À mon avis, il y a une équipe, que ce soit les Lakers ou une autre. Si les infos qu'on a sur le fait que LeBron conditionne plus ou moins sa prolongation au fait que les Lakers lui assurent l'avenue de Bronny, il faudra s'attendre à ça. Hein.
Je suis en train de regarder. C'est pour quelle université qu'il va jouer? Il s'est engagé avec une université.
Il s'est pas engagé encore. Il y avait des rumeurs qu'il aille à Duquesne.
Ok, on sait pas encore.
Okay. Il y avait des rumeurs que s'il il allait pas à la draft, ça se jouait peut-être entre Duquesne, parce que c'est l'ancien coach de LeBron au lycée qui est là-bas et que c'est un programme un peu montant. Et il y avait, je me demande s'il n'y avait pas Ohio State à voir. Je sais pas. Et je crois qu'il y avait ça. Il y avait Ohio State. Ce qui est marrant puisque LeBron était à Cleveland, d'ailleurs, on n'en a pas parlé. LeBron a assisté au match des Celtics et il a été plus ovationné par les fans des Cavs que leurs propres joueurs. Et est-ce que Bronny n'était pas avec lui, d'ailleurs? Non, parce qu'il était au Combine.
C'était Savannah et Rich
Paul. Il était au Combine.
Rich Paul qui a été ovationné incroyablement. Peut-être l'ovation encore plus bruyante que celle pour LeBron.
Mais bon, tout est possible, mais j'ai l'impression que s'il maintient son nom et que l'info. L'info la plus récente, c'est qu'il va laisser son nom, c'est qu'il a déjà dû avoir plus ou moins des promesses, et que là, le Combine, où par ailleurs, il a été en dehors de cette petite escroquerie sur la taille, on ne sait pas d'où elle vient d'ailleurs, est-ce que ça vient d'eux ou est-ce que ça vient de médias, on ne sait rien, a priori, ça vient peut-être plus du camp LeBron quand même. Il y a aussi les drills au niveau du shoot, à 3 points, il a fait 11 sur 11 sur du shoot en mouvement, donc c'est pas, encore une fois, c'est pas un peintre, hein, mais je pense qu'il a une promesse, moi.
Mais tu crois, parce qu'ils n'ont pas encore rencontré les franchises, là, ils peuvent.
Ouais, mais on sait que ça discute, enfin, les agents.
Ça a commencé hier.
Ouais, mais je pense quand même qu'il y a il y a quand même des arrangements entre certains GM qui ont pour agent peut-être Rich Paul. Genre, enfin, je pars dans. Je fabule, hein, mais s'il n'en a pas, j'ai l'impression qu'il en aura un moment, en tout cas.
Ok, bon, on verra ça, parce que c'est. Moi, je me dis, le mieux pour lui, c'est une saison sophomore à la fac où, je sais pas, où il rebondit clairement, il tourne à, je sais pas, entre 13 et 15 points de moyenne, tu vois, montrer un peu plus de potentiel offensif en plus de sa défense et de ses qualités athlétiques, montrer une évolution, une progression en mode « oubliez ma saison freshman, c'était une erreur, j'ai eu mon opération du cœur, voilà, ça s'est pas bien passé, mais regardez ça, c'est ce que je vaux », et derrière, se représenter à la draft en tant que potentiel premier tour ou choix du début du second tour. Parce que là, même au début du second tour, c'est un pic de gâché. Enfin, au-delà du... Enfin, pic de gâché. Non, j'exagère, parce qu'il a du potentiel. Je suis dur. C'est... Pic de gâché. Je ne sais pas, comme si le bonhomme, je le voyais jouer tout le temps, que je regardais tous ses matchs et que je peux te dire, ah ben non, c'est sûr qu'il ne va pas percer, tu vois. Mais mais on sait à quel point les tours de draft, c'est important. On sait à quel point c'est l'occasion de, pour pas cher, renforcer ton équipe.
C'est là qu'on peut se demander à quel point la volonté de LeBron de jouer avec son fils avant la fin de sa carrière. C'est-à-dire que s'il commence à retourner
mais
dans
même,
un cycle
universitaire... Mais même vraiment avec son fils. Parce que même ça a été mal interprété.
En même temps que son fils, ouais.
Oui, parce que lui-même, il l'a dit derrière, quand il y a eu tous ces trucs, il a dit non, mais ça ne veut pas forcément dire dans la même équipe. En fait, ça a été super mal interprété. C'est devenu un truc absolu et ça a été tellement repris sur Twitter et par les fans de basket et par les médias en mode « Ah bah il ira dans l'équipe où va son fils ». Mais lui-même, il avait mis un stop. Il a dit « Non, mais c'est pas ça. C'est jouer dans la ligue de mon fils. » Genre, on a joué ensemble en NBA d'une certaine manière. Après, si c'est dans la même équipe, oui, j'imagine que ça lui ferait plaisir aussi. Ouais. Mais je sais même pas si c'est ce qu'il y a de mieux pour Bronny. Je sais même pas si c'est ce que Bronny veut. Je sais même pas si c'est ce que LeBron veut vraiment. Après, oui, je peux imaginer qu'il ait envie de jouer avec son fils, tu vois, mais… Après, oui, lui, il peut mettre une pression. Parce que moi, pour revenir à LeBron, j'ai l'impression que LeBron, on est tout proche de la retraite. Et je dirais que si Bronny vient en NBA cette saison, je pense que c'est sa dernière saison. Je pense que si Bronny, il est drafté, je pense que LeBron, c'est sa dernière saison. Et pour l'instant, il dit rien parce qu'il attend de voir ce qui se passe à la draft. Et que si Bronny est drafté, LeBron, il va nous annoncer son fameux...
Tu penses qu'il fait un farewell tour du coup, ouais.
Oui, je suis certain qu'il fait un farewell tour, j'en suis absolument convaincu. Si Bronny n'est pas drafté, peut-être il fait encore une année après pour voir si Bronny est drafté en 2025, quoi, tout simplement. Ou Brice, je crois que Brice c'est 2025 aussi, ou 2026 peut-être Brice.
C'est peut-être Brice, 2026, c'est
2026. Ouais. 2026, ouais. Ça me semble trop loin. Les Bronny, il n'ira pas jusqu'en 2026, je pense pas.
Bah, c'était assez marrant parce que ça, on avait fait un podcast dessus, on avait deux points de vue un peu. Pour le coup, elle s'est opposée. Moi, j'ai l'impression que j'étais parti sur une longévité folle, record et tout. Mais
il l'a déjà.
Oui, bien sûr.
C'est overkill. Pourquoi tu veux l'avoir plus? Tu baisses tes moyennes.
Je sais.
Là, LeBron, sa moyenne de points, elle va baisser.
Je sais. L'avenir nous le dira. Écoute, on ne sait pas.
Oui, bien sûr.
Je sais que toi, tu étais sur une retraite proche et moi, plus sur un truc à la Tom Brady. Bon, écoute, ça on verra.
On verra
ce qu'il en est pour Bronny.
On n'en a aucune idée au final. Peut-être qu'il va durer 5 ans de plus. Hein, je te dis ça. Mais bien sûr, tu as raison. Hein, j'ai absolument pas. Enfin, je veux dire, c'est. J'annonce ça. Non, je suis sûr, mais au final.
Non, mais ça aurait du sens.
J'en sais fichtrement rien.
Il y a les Jeux Olympiques. Le dernier, ça fait un peu dernier challenge et tout. Bon, ouais, voilà. J'entends très bien, mais on n'est pas à l'abri de surprises, à mon avis. On verra comment ça va.
Oui,
ça,
c'est clair. Avec LeBron, c'est lui qui sait au final son plan, tu vois. Ouais. Mais tu sais, le simple fait qu'il a un podcast, tout ça, je me dis, putain, le mec est déjà. mais effectivement, t'as raison, on verra ce que ça va donner la suite. Puis ça fait partie du charme de la NBA, il y a des intrigues constamment, il y a les matchs, il y a les intrigues autour des matchs, il y a les intrigues autour de la draft, il y a les transferts, tout ce qui se passe en coulisses. La NBA a été très forte pour créer une vraie ligue 24 sur 24, 7 jours sur 7 toute l'année. Et nous, on est presque là 7 jours sur 7, mais on se retrouvera demain pour un nouveau CQFR avec Shai. Et ce soir, je ne sais pas, Shai Endless Sessions.
Comme vous avez pu l'entendre, si vous avez l'image en plus du son, je suis un peu malade, mais normalement, les médicaments vont faire leur effet. Et je serai là ce soir à 23h pour la late session. Sauf, de toute façon, s'il y a forfait, je vous préviendrai avant. Restez à l'affût sur Twitter, mais normalement, il n'y a pas de raison.
Et moi, normalement, d'ici une semaine, je devrais retourner dans la head session.
Le retour
dans la head session. D'ici là, bonne journée à tous. On se retrouve demain pour un nouveau CQFR. Ciao, ciao.
À demain.